Bonsoir mes frères et sœurs. Quelle grâce que de nous retrouver sous son saint regard. Alors j'aimerais lire avec vous un premier texte qui nous rappelle ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce que Jésus a dit avant de remonter au ciel? Une des dernières paroles qu'il a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Qu'est-ce que la vie de l'Esprit nous où la vie de l'Esprit nous conduira? Eh bien à cela, Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19 pardon et 20. 18, 19 et 20. Vous connaissez bien ces dernières paroles. Il les a dites juste avant de remonter au ciel et de s'asseoir sur son trône. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approcha, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, le Saint-Esprit, s'il nous conduit, car il a donné l'Esprit de Dieu, c'est pour nous conduire dans toute la vérité. Et la vérité, c'est que nous soyons de véritables disciples. Donc, faites des disciples et baptisez-les. Donc la question est de savoir, qu'est-ce que les religions veulent faire? Est-ce que nous voulons faire des pentecôtistes? Est-ce que nous voulons faire des catholiques, des protestants ou des disciples? Est-ce que vous êtes un disciple? Un disciple accompli. Vous savez ce que ça veut dire accompli? Qu'est-ce que ça veut dire accompli? Qui remplit les conditions. Un disciple, c'est quelqu'un qui dit, voilà, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les conditions? Et lorsque la parole de Dieu devient un feu, lorsque la parole de Dieu est vie, eh bien, elle nous permet de devenir ses véritables disciples. Je suis persuadé que dans l'Assemblée, beaucoup de chrétiens croient en Dieu, vont à l'Église, mais ne sont pas devenus ses véritables disciples. Alors, on va voir quelques caractères, d'accord? Le premier, c'est dans Jean au chapitre 8. C'est important parce que mes frères et sœurs, on est peiné lorsqu'on voit beaucoup de chrétiens rétrogradés, lorsqu'on voit beaucoup de chrétiens qui ont un mauvais témoignage. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils lisent par exemple des livres chrétiens, mais ils ne lisent pas la Bible comme on l'a entendu dans le don spirituel. Ça fait qu'ils ne peuvent pas connaître la vérité. Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc je relis, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comment demeurons-nous dans la parole de Dieu? Comment sommes-nous lorsque nous écoutons un texte biblique? Est-ce que nous sommes honnêtes? Lorsque le Saint-Esprit nous parle, lorsque le Saint-Esprit met le point sur quelque chose de notre vie qui correspond à ce qu'on a besoin d'entendre, est-ce qu'on est honnête? Le Seigneur est en train de me montrer ma misère, je suis un misérable, alors que comme on l'a vu mardi dernier, je peux devenir riche spirituellement, je suis toujours misérable, ça fait 5 ans que je suis chrétien, je suis tout le temps pauvre. Seigneur, la vérité, c'est que je devienne riche spirituellement. Il y a besoin d'être honnête, je veux être au bénéfice de la vérité. Ou est-ce que la vérité, c'est juste pour les autres? On l'entend des fois, ça, tiens, ça c'est pour lui, tiens, ça c'est pour ma femme, j'espère qu'elle est là ce matin. On l'a entendu ça, on l'a entendu. Et c'est dommage. Marcher dans la vérité, aimer la vérité, c'est quelque chose qui devrait nous caractériser. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Vous savez, moi ça m'arrive des fois à la fin des cultes. Monsieur Gour, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Et j'ai dit, mais c'est pas avec moi que vous n'êtes pas d'accord. Si, si, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est la parole de Dieu. Et les gens n'aiment pas la vérité. Les gens, ils ont envie d'entendre des choses nouvelles. Comme dit Paul, ils ont la démangeaison d'entendre des choses nouvelles. Et lorsque on aime la vérité, on grandit dans la parole, on reste attaché à la vérité. Moi, vous savez, il y a un texte qui m'a beaucoup choqué la première fois que je l'ai lu. Je ne pensais pas que je l'utiliserais autant dans mes prédications. C'est dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. C'est un texte qui m'a choqué. La première fois que je le lis, j'ai été frappé par ce texte. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et j'avais un mois de conversion. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas comprendre ce verset. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 10 à 12, vous avez une explication de ce qui se passera à la fin des temps. Les chrétiens de nom, le chrétien superficiel, en tous les cas, ce n'est pas des disciples, ça c'est sûr. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Alors, on va lire le verset 9. L'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, regardez bien, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça fait peur quand même. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez le verdict. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, ils soient... Qu'est-ce qu'ils seront? Ça fait peur quand même. Vous ne trouvez pas que c'est... Ils n'ont pas aimé la vérité. Ils n'ont pas cru, ils cherchaient Dieu pour des intérêts personnels. Ils allaient à l'église pour la bénédiction. Ils voulaient que Dieu soit de leur côté. Mais ils n'aimaient pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Et la question que l'on doit se poser, est-ce que je suis ce disciple? J'aime la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et en plus, la vérité vous rendra libre. C'est extraordinaire d'être libre. Oui, à la fin des temps, nous le voyons, les gens n'aimeront pas la vérité. Est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que vous aimez que Dieu vous dise ce qu'il a à vous dire? Même si des fois ça pique. Ouais. Moi je me souviens la première fois j'avais demandé vraiment à Dieu de me parler. Et que Dieu m'a montré que j'étais un mauvais pasteur. Mais vous ne pouvez pas savoir comment j'ai pleuré de joie. Parce que j'avais demandé à Dieu qu'il me parle et il m'avait parlé. Et si on n'aime pas la vérité, eh bien on finira par croire des mensonges. Et je peux vous dire qu'on n'est pas heureux quand on croit à des mensonges. On n'est pas heureux quand on avale des mensonges, quand on finit par accepter tout ce qui n'est pas biblique. Vous savez, quand on veut remplacer le Saint-Esprit par des méthodes humaines, laissez-moi vous dire qu'il y a longtemps qu'on a avalé des mensonges. Quand on veut que l'Église soit dirigée autrement que par la puissance du Saint-Esprit, que par l'amour de la parole, que par la prédication de la croix, il y a longtemps, longtemps qu'on est dans le mensonge. Rien ne peut remplacer la puissance de la croix, rien ne peut remplacer la puissance du Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Et si j'aime le monde... Si j'aime le monde, parce que ça, est-ce qu'on peut aimer le monde tout en étant chrétien? Eh oui. N'aimez pas le monde. Il y a des gens, ils aiment le monde, ils ne trouvent pas la joie en Dieu, alors ils sont obligés, c'est obligé. Si. Ils ont cherché la joie dans le monde. Ils n'ont pas la paix en Dieu, ils n'arrivent pas à retrouver cette paix, parce que par exemple, ils se sont fâchés avec quelqu'un, donc Dieu leur a enlevé la paix. Ils ne recherchent pas cette paix, donc ils vont chercher la paix dans des substituts que le monde essaie de leur proposer. Bien sûr, ça ne marche pas. C'est Paul qui dit aux Galates, mais qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Qui vous a empêché? Et oui, ils étaient retombés dans le légalisme. Et une des armes, la première arme que l'apôtre Paul nous demande de revêtir, c'est ayez la vérité pour ceinture. Mettez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est la première des armes. Un chrétien, il doit être pétri de vérité. Il doit aimer la vérité. Même moi, je dis aux nouveaux chrétiens souvent, ne lisez pas de livres. Chrétien, avant d'avoir lu la Bible, même plusieurs fois, parce que souvent on lit des choses. Si c'est des bons livres, ça va. Mais si c'est des mauvais livres. Moi, il y a une sœur qui s'est convertie ici, je me souviens, il y a longtemps, elle a rétrogradé. Elle avait fait des expériences extraordinaires. Et il y avait une croyante, que je ne connaissais pas, de Toulouse, qui lui avait passé un livre qui s'appelait « Communication avec Dieu ». Elle me dit « Monsieur Gau, j'ai lu ce livre, c'est merveilleux, je vais vous le faire lire ». Elle me l'amène, c'était un livre sur la grâce et la communion avec Dieu. Et ce livre expliquait que tout le monde était sauvé, tout le monde, même Hitler. Le Seigneur avait révélé à cette personne que même Hitler serait sauvé, que l'enfer en fin de compte n'existait pas, que même Satan serait sauvé, vous voyez. Et elle me dit, mais c'est merveilleux. Et je dis, mais c'est pas tout à fait ce que la Bible dit. Oh, monsieur, vous écoutez, il n'y a pas que la Bible. Hein. J'ai dit, il n'y a que la parole de Dieu. Et cette sœur, cette chrétienne, croyait vraiment à la fameuse doctrine de l'universalité, l'universalisme. l'universalisme prend des versets bibliques pour dire que Satan, même Satan sera sauvé. Ils prennent, je vais vous donner un verset. Vous voyez, c'est le verset de Éphésiens. Vous voyez, par exemple, je ne me trompe pas, vous voyez, ils prennent le verset 10 du chapitre 1er. Mais c'est parce que, vous savez, ils partent de la Bible. Ne vous inquiétez pas, le diable, il est rusé. Hein. Le diable, il est rusé. Ils prennent ce verset, les universalistes, vous pouvez taper sur Internet, voilà, dans la confession de foi des universalistes, vous allez tomber de haut. Hein. Éphésiens chapitre 1er, verset 10, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, ils partent de ce verset, c'est la base de confession de foi des universalistes pour expliquer que tout le monde sera sauvé. Voyez, c'est pas ça que le texte dit. Hein. Loin de là, croyez-moi. Voyez, ils n'aiment pas la vérité, ils font n'importe quoi. Mes frères et sœurs, c'est un danger. Un chrétien, il demeure dans la vérité. Il est appliqué à la vérité. Et s'il parle de la grâce, il va aussi parler de la colère. Et s'il croit au paradis, il sait également que l'enfer existe. Ainsi de suite. Et qu'il y a toutes ces choses qui sont dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. Vous aimez lire la Bible ? Est-ce que vous aimez ou est-ce que c'est un combat de lire la Bible ? Est-ce que c'est un plaisir ou est-ce que c'est un combat ? Tiens, c'est une question... Voilà, les deux, c'est un peu vrai. Ça doit être un plaisir, mais ça peut être aussi parfois un combat. Mais d'une certaine manière, quel plaisir de lire le Saint-Livre quand même. Le plaisir doit dominer le reste. Et même s'il y a un combat, le combat va se transformer en plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me souviens, M. Christian, il avait dit, quand vous n'avez pas envie de lire la Bible, eh bien, vous lisez le psaume 119. Et quand vous l'avez lu, après vous avez envie de lire la parole de Dieu. Mais c'est bien vrai, et je vous avoue que je le fais des fois. Le second point, dans Jean au chapitre 13, par rapport aux disciples. Vous savez, c'est sérieux, mes frères et sœurs. Parce que les disciples, Dieu les gardera. Les chrétiens de nom, il est hors de question. Ils ne tiendront pas. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, qu'est-ce qu'il est dit ? Que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, qu'est-ce qu'il est dit également ? Qu'à cause de l'iniquité, là, et voilà, c'est le deuxième point. Jean chapitre 13, verset 34. Tout ça, ça a été dit par le Seigneur avant de mourir, avant de souffrir. Il a tenu à ce que ces choses soient là dans les Saintes Écritures pour que nous puissions avoir des garde-fous. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Alors, au fait, est-ce qu'il était nouveau, le commandement ? Jean, dans les années 90, il dit la même chose. Je vous donne un commandement nouveau. 70 ans après, aimez-vous les uns les autres. Alors pourquoi est-il rappelé chaque fois, je vous donne un commandement nouveau ? Parce que l'amour, ça doit être quelque chose tout le temps de renouveler. Toujours renouveler. L'amour, c'est quelque chose qui ne périt pas. Lorsqu'on aime, les choses ne sont pas difficiles. C'est lorsqu'on n'aime plus. C'est pour ça que j'étudie un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors c'est un peu plus difficile, mais ça prouve que nous on ne peut pas, mais Dieu peut en nous accorder cette grâce. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors je ne sais pas comment vous voyez l'évangélisation, mais pour moi ça, c'est l'évangile. Que les gens, lorsqu'ils nous voient, voient que l'on s'aime. C'est pas important, ça ? Lorsque les gens nous voient vivre ensemble, voilà, qu'ils voient que l'on s'aime. Moi, je trouve que c'est beau, dans une église, quand les gens s'appliquent à aimer. Alors, de par nous-mêmes, on ne peut pas. Quand on était païen, quand vous vous rappelez quand vous étiez païen ? Vous en rappelez ? Oui ? Alors, comment on aimait quand on était païen ? Est-ce que vous vous souvenez ? Qui vous aimiez quand vous étiez païen ? Vous vous rappelez ? Est-ce que vous pardonniez quand vous étiez païen ? Moi, je peux vous dire que quand j'étais païen, je le dis franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'était comme ça. Peut-être que quelqu'un me l'a appris quand j'étais tout petit, je pardonnais, même païen. Je vous assure que c'est vrai. Mais il n'empêche qu'il y a des choses humaines que l'on peut faire, aimer d'une manière... La Bible dit, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, les païens, ils font pareil. Vous voyez, les païens, ils ont une façon d'aimer, quand ils sont déçus, ils n'aiment plus, etc. Mais nous, on voit dans ce texte quand même, aimez-vous comme je vous ai aimé. Donc ce n'est pas avec notre amour, celui que l'on trouve dans notre vie psychique, dans notre vie humaine, que nous pourrons le faire. Mais est-ce que Dieu peut nous remplir du sien ? L'amour de Christ me presse. Michael nous rappelait cet amour parfait qui bannit la crainte. L'amour parfait, il est dans nous, c'est l'amour du Seigneur. Parce que là, on peut se poser la question. L'amour parfait bannit la crainte. Il vient d'où cet amour ? Ben, c'est inévitable, là, c'est l'amour du Seigneur. Donc on peut recevoir l'amour de Dieu. Mais c'est une question que je peux me poser. Comment je manifeste mon amour aux autres ? Comment je manifeste mon amour à mon frère à côté de moi ? Comment je manifeste l'amour aux stagiaires que Dieu m'a confiés ? Comment je manifeste l'amour à mon conjoint ? Est-ce que vous avez un conjoint ? Est-ce que vous avez une fiancée, un fiancé ? Non ? Oui, mais comment on manifeste l'amour ? Comment je manifeste l'amour à mes parents ? Vous avez vos parents, les jeunes ? Eh oui, mais il faut les poser, ces questions, parce qu'elles reviennent dans la parole de Dieu. Comment je manifeste de l'amour à mes enfants ? Si vous avez des enfants, vous avez des enfants ? Il y en a qui ont des enfants ici ? Comment vous manifestez l'amour à vos enfants ? Comment nous aimons nos dirigeants ? En haut, là-haut. Les dirigeants du pays. Est-ce que c'est demander d'aimer ceux qui nous gouvernent ? Est-ce qu'il y a un texte qui dit... Il n'y a pas un texte par là ? On va prendre... non, pas celui qui nous demande de prier. Parce que prier, c'est un peu plus facile. Mais dans 1 Pierre, qu'est-ce qui nous est demandé ? 1 Pierre chapitre 2. Parce qu'attention, tout ça, c'est dans le cadre de l'exaucement aux prières. Parce que si Dieu nous demande d'être des disciples, ce n'est pas pour être des disciples, point, et pas des évangéliques ou des catholiques. Le Seigneur nous demande d'être des disciples parce que ce sont les disciples que Dieu exauce. 1 Pierre chapitre 2, verset 17. La conclusion de ces chapitres, c'est qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des chrétiens qui se demandent pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées, mais parce que ce ne sont pas des disciples. Un disciple, il aime les gens. 1 Pierre 2, verset 17. Honorez. Comment vous avez dans votre Bible ? Honorez tout le monde. Après, aimer les frères, bon, ça va. Aimer les frères, bon, c'est pas un problème. Craignez Dieu, ça va. Honorer le roi. Oh, c'est bien, on n'est pas dans une royauté. On est dans une république, quel bol, on n'a pas de roi en France. Bon, d'accord. Mais quand même, on a une autorité dans la nation. On a un premier ministre. On a le ministre de la justice. On a le ministre de l'intérieur. Le ministre de l'Éducation nationale, etc. Oui, non, mais ils sont tous favorables à des lois impies. Ils ont tous voté des lois impies. Et Seigneur, tu me demandes d'aimer ces gens ? Eh bien oui. Est-ce que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis ? Alors est-ce qu'on peut sauter au cou de nos ennemis ? Non, mais on peut prier pour eux. Et la Bible, c'est ça comment ça aimer. Seigneur, je te prie pour Monsieur le Président de la République. Moi, je suis contre le gouvernement, dans le sens où ils ont tous voté des lois impies. Quand vous voyez le comité des sages, les lois qu'ils votent, ça me ferait rire. Ça m'énerve. C'est un rire nerveux, vous savez. Quand j'entends que le comité des sages a validé telle loi qui a été votée par le gouvernement, le comité des sages français, ils sont tous dans l'impiété. Et pourtant, il faut prier pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des combats spirituels que nous ne comprenons pas. Et si Dieu nous demande d'aimer, ce n'est pas pour tester notre patience. C'est parce que c'est important que rien ne vienne faire obstacle à la prière. À la fin de ce chapitre, alors il y a une accentuation sur le comportement entre les époux. Mais en vérité, à la fin du verset 7 du chapitre 3, c'est le résultat, n'oubliez pas que dans le grec, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Regardez la fin du verset 7. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mes frères et sœurs, que vous le fassiez en serrant les dents, nous devons prier avant toute chose pour ceux qui nous gouvernent. Nous, on prie pour nos enfants, on prie pour les proches, on prie pour les gens que nous aimons. Dieu dit, avant toute chose, priez pour ceux qui vous gouvernent. C'est ça, aimé. Quand je prie, Seigneur, je prie pour le président, je prie pour monsieur... Moi, je le fais tous les jours, mais je vous avoue que ce n'est pas par amour profond. Je le fais parce que Dieu me demande de le faire. Parce qu'un disciple, il s'applique à aimer. Et je suis persuadé que plus on prie, plus on s'attache aux gens. C'est quelque chose d'important. Comment je prie pour mon patron? Vous avez un patron? Vous avez vu à la télévision quand les gens parlent de leur patron? Combien les gens sont rebelles, vous avez remarqué? Et ça, c'est en boucle. Tout le monde parle mal des supérieurs et avec l'argent qu'ils gagnent, c'est des requins et tatati et tatata. Mais mes frères et sœurs, un chrétien, il se soumet. Un disciple, il a cela à cœur. Comment je prie pour mon pasteur? Hier, j'ai appris encore qu'un pasteur a démissionné. Il s'est fâché avec le conseil d'administration. Il a démissionné. Ça fait mal au cœur quand même, hein? Et je le connais, ce pasteur, en plus. Ça m'a fait de la peine. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne peut pas savoir, parce que ça me passe tellement des choses. Mais moi, il me semble que si on priait les uns pour les autres, il y aurait l'unité de l'esprit entre nous. Vous ne croyez pas? Et tout cela, le diable l'utilise parce qu'on ne s'applique pas à être des disciples. Vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Jésus, dans le chapitre 13, justement, nous a montré ce qu'il fallait faire, c'est que nous soyons serviteurs les uns les autres. Est-ce que vous aimez servir vos frères, vos sœurs? Est-ce qu'on est serviteurs les uns les autres? Ah ouais. Il y a des gens, ah non, moi ça risque pas. Moi faire ça, mais n'importe quoi. Moi faire le ménage, non mais vous rigolez. Moi, je suis ingénieur. Vous croyez que moi, je vais faire le ménage dans l'église? Mes frères et sœurs, quand on est chrétien, il n'y a pas d'ingénieur ou quoi que ce soit. Quand on est chrétien, il n'y a que des frères et des sœurs en Christ qui sont heureux de servir le Seigneur. Ouais. C'est un commandement. Regardez encore dans Jean, chapitre 15. C'est un commandement. Les commandements, c'est des bénédictions. David disait, je prends plaisir à tes ordonnances. Lisez le psaume 119 et vous allez voir combien David trouvait du plaisir dans les ordonnances. Jean chapitre 15, verset 12, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. » Seigneur, j'ai du mal. Eh bien, demandez de l'aide. Demandons de l'aide. Vous avez déjà demandé? Est-ce qu'on peut demander de l'amour? Ben oui. Est-ce que c'est écrit aspirer, rechercher l'amour? Est-ce que c'est écrit quelque part? Non. 1 Corinthiens 14. Rechercher l'amour. Seigneur, j'ai du mal à aimer. Moi, quand je vois... Franchement, je ne sais pas ce que vous pensez, je ne veux pas polémiquer, changer de sujet, mais quand on voit tous ces chrétiens qui divorcent quand même, vous êtes d'accord avec moi? Des chrétiens qui divorcent. Ça vous fait pas de la peine? Sérieusement, deux chrétiens, chacun a Christ en lui. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a Christ en lui. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui s'est engagé à aimer son conjoint devant Dieu, qui a demandé la grâce de Dieu. Moi, je ne sais pas, là, je ne veux pas rêver, mais quand même, ça nous fait de la peine quand on voit ça. On entend de plus en plus maintenant, oh, il y a autant de divorces dans les églises que dans le monde. On n'entend pas ça? Hein, on l'entend? Ben, je peux vous dire que s'il y a de l'amour, quand il y a de l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la paix, il y a du pardon, voilà, il y a du pardon. Quand il y a de l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez 1 Corinthiens 13? Seigneur, tu vois, j'aime pas assez ma femme. J'aime pas assez mes enfants. Eh bien, je vais me mettre à genoux. Et tu vas remplir mon cœur de ton amour. Et il le fera. Demandez, et vous recevrez. C'est pour cela qu'on doit se poser la question, mais c'est quoi un disciple? Parce que c'est sûr, vous allez me dire, mais on le sait ce que tu dis, on le sait. Mais le problème, c'est qu'il faut pas. C'est vrai qu'il faut le savoir. Paul dit, je veux que vous sachiez Quelle est l'espérance? Je veux que vous sachiez. Ça passe par la connaissance, c'est indiscutable. Mais la connaissance doit se transformer en expérience. Mais l'expérience ne passe que par la connaissance. C'est évident. Mais moi, je veux cet amour, Seigneur. Il faut absolument que j'aie cet amour. C'est vrai qu'un des signes de la fin des temps, c'est une prophétie en plus. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est une prophétie. Alors bien sûr qu'on va se dire, oui, bon, c'est une prophétie, donc ça va s'accomplir. Mais on n'est pas obligé d'entrer dans ce processus. On peut rentrer dans le processus des fidèles et dire, moi je serai un vrai disciple. Moi je ne veux pas tomber dans ce piège et dans ce danger. N'oubliez pas que le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Seigneur, moi je veux, c'est Osée qui dit, c'est de moi, c'est Dieu qui parle. C'est de moi, dit le Seigneur, que tu recevras ton fruit. Donc le fruit, il vient de Dieu. Et si nous développions une véritable communion avec Dieu, pas lire la Bible pour lire la Bible, comme cette sœur qui est partie auprès du Seigneur maintenant, qui était furieuse contre son mari, je me rappelle, elle venait me voir souvent à la maison, elle me dit, je suis furieuse. Mais pourquoi? Elle était furieuse contre son mari parce qu'il buvait un verre de vin à table. Et je me rappelle, je dis, mais ma sœur, vous n'avez pas lu dans la Bible? Vous avez lu Timothée? Oh, monsieur, je connais par cœur. Connaissez par cœur Timothée, oui. Mais on va lire un texte. Alors je dis, mais que grand Paul recommande à Timothée de boire un verre de vin, un peu de vin, par rapport à ses fréquentes indispositions d'estomac. Alors je le lui lis, elle me regarde avec des yeux vraiment de caméléon. Elle me dit, mais j'ai jamais fait attention, je le lis tout le temps. J'ai dit, mais vous le lisez. Mais comme disait Michael tout à l'heure, vous ne le recevez pas. Elle était là, elle était toute confuse, elle me dit, je fais la guerre à mon mari. J'ai dit, mais vous savez que dans le vin, surtout à l'époque, il y a du tanin, et le tanin, ça fortifie la paroi de l'estomac. Et donc Dieu conseillait à Timothée, par rapport peut-être à ses ulcères, ou à ses contrariétés, parce que les contrariétés peuvent provoquer des ulcères, etc., il lui conseillait de boire un peu de vin. Elle était toute confuse, elle a réalisé, elle a pleuré, elle a demandé pardon. Mais voyez, les gens ne lisent pas la parole. Enfin, ils la lisent. Ils lisent en diagonale. Combien c'est dommage. L'amour, mes frères et sœurs, développons et ayons de l'amour. Demandons-le. Si vous êtes en défaillance, s'il y a une défaillance d'affectif, d'amour, mais mettez-vous à genoux. Dites, Seigneur, donne-moi de l'amour. Est-ce que ce sont des choses que Dieu peut donner, ça? Eh bien oui. Et s'il y a un malaise, eh bien, Seigneur, pardon. Si je me suis disputé, eh bien, je vais voir pardon. C'est ça. Et moi, ça me fait mal au cœur quand je vois tous les gens qui rétrogradent et quand je sais qu'à l'enlèvement, les gens, ils n'auront pas pris au sérieux ces choses. Le troisième, c'est dans Jean chapitre 15, au verset 8. On vient de lire le verset 12. Mais il y a quand même ce point. On va terminer avec ce point. On verra l'autre la prochaine fois. Jean chapitre 15, si le Seigneur nous conduit. Alors, on va lire le verset 7. Il fait partie de ces sept textes avant que Jésus ne meure. Vous savez que 7, c'est le signe de la perfection spirituelle. Il indique qu'il y a une perfection spirituelle dans la prière. Regardez Jean chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est extraordinaire. Oui ou non? Voilà. Si, bien sûr, nous demeurons en lui. Ce n'est pas une question de réunion, c'est du 24 heures sur 24. Si vous portez beaucoup de fruits, pas du fruit, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Alors, quelle sorte de fruits je porte? Posez-vous la question, moi je me la pose de mon côté. Quel fruit je porte? La Bible parle beaucoup du fruit, souvent du fruit. Le fruit de l'humilité. Est-ce que je suis humble? Parce que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. C'est quoi quelqu'un de humble? Mais c'est quelqu'un qui accepte ce que Dieu lui dit. Seigneur, tu me montres ma dureté. Imaginez-vous, un frère vient vous voir, il vous dit, tu es trop dur. Une autre sœur vient vous voir, deux jours après, tu sais, je trouve que tu es dur dans tes propos. Une quatrième vient vous voir, tu sais, l'autre jour tu m'as dit ça, je trouve que tu es dur. Qu'est-ce que vous allez dire? Franchement, parce que ça s'est présenté. Moi, je connais un pasteur, il y a une quinzaine de pasteurs, de chrétiens qui ont été lui dire « Je trouve que tu es dur ». Et à la 20e fois, vous savez ce qu'il a répondu? Ce n'est pas de la dureté, c'est de la fermeté.
Ça vous fait rire, mais moi, ça m'a fait de la peine. Parce qu'il aurait pu, au bout de la 3e ou 4e fois, il aurait pu dire, pardon, 3 personnes m'ont dit que j'étais dur, et je vous demande pardon. Vous ne croyez pas? Et il s'est enfermé. Il s'est braqué. Et quand on lui a dit, mais tu sais, tu es entêté. Ce n'est, plusieurs fois, ce n'est pas de l'entêtement, c'est de l'intégrité. Mais ça, on n'est pas dans l'humilité. Moi, je crois que si 3 ou 4 personnes venaient à nous dire, je trouve qu'il y a ça, eh bien, peut-être on pourrait dire, bon, mais pardon. Vous ne croyez pas? Eh oui, c'est ça, cette honnêteté devant Dieu. Cette honnêteté devant Dieu, frères et sœurs. L'humilité. La Bible parle du fruit de la sainteté. La sainteté, est-ce que ce n'est pas un fruit extraordinaire, ça? De vivre dans... Parce que vous avez... Mais je suis sanctifié, ne vous cassez pas la tête. Jésus a été fait pour moi, sanctification. Mais moi, je ne parle pas de sanctification par le sang de Jésus-Christ. Je parle de la marche dans la sainteté. Il faut faire la différence entre la sanctification, Jésus-Christ m'a sanctifié, que le Seigneur soit béni. Si on peut un jour vivre dans sa présence, c'est parce que son sang nous aura sanctifiés. Mais la Bible nous appelle à la sanctification dans le sens où je pratique la sainteté. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont sales, qui nous salissent? Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Jésus l'a dit, de toute façon, ce n'est pas grave. Quand il a lavé les pieds aux disciples, il a expliqué qu'on était purs, mais qu'on se souillait les pieds. Quand on marche, on se salit les pieds, d'accord? C'est l'image que la marche fait que, bien sûr, il y a des choses qui nous souillent. Mais il faut bien faire la différence entre des choses qui nous souillent obligatoirement parce que le monde est corrompu, et puis la souillure que nous nous imposons nous-mêmes parce que nous vivons vraiment dans le péché. Ouais. Et les gens qui se souillent volontairement, ils ne seront pas sauvés. Il y a un fruit. Quel fruit est-ce que je porte? La Bible, parce que nous, souvent, on est dans le fruit de la repentance. Voilà, produisez du fruit digne de la repentance. Mais beaucoup de gens ne sont pas dans la repentance. Ils sont dans le regret. Et c'est pour ça qu'ils ne changent pas. Vous vous êtes posé la différence qu'il y a entre le regret et la repentance. Jésus, il n'a pas dit regrettez, c'est pas bien. Soyez gentils, s'il vous plaît. Non, il a dit, repentez-vous. Parce que quand vous vous repentez, vous allez au calvaire. Et quand vous êtes au calvaire, vous avez la victoire. Et vous vous repentez vraiment. Alléluia. Vous croyez que le calvaire est la victoire? Mais bien sûr. Et souvent, les gens ne sont pas sérieux. Il n'y a pas cette honnêteté. C'est pour ça que Jésus dit, mais faites des disciples, des gens qui obéissent. Quand Jésus reviendra, c'est Paul qui le dit aux Thessaloniciens, il reviendra, il ne prendra pas ceux qui n'obéissent pas. C'est écrit ou c'est pas écrit? Est-ce que c'est écrit, Céline? Vous êtes sûr? Eh oui, c'est écrit. Il dit qu'il reviendra et qu'il ne prendra pas ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que si le Seigneur nous parle de porter du fruit, c'est lui qui nous l'accordera, parce que nous serons en communion avec lui. Je posais l'autre fois la question... Dans le jardin, là, il y a une grosse treille de raisin. C'est la branche qui porte le raisin ou c'est la racine? C'est qui le produit? La branche ou la racine? Eh ouais. Non, mais vous comprenez? C'est ce qu'on ne voit pas, c'est cette racine. C'est la racine qui produit la sève, et la sève qui est aliment, qui passe par le tronc, par le cep et par les branches. Oui, et le fruit ne peut pas ne pas être là. Moi, je me souviens, une fois, j'avais compté sur ma petite vigne que j'avais plantée, là, il y avait 150 raisins. J'étais super fier. Parce que j'y étais, je la taillais, je sais le faire. Et j'étais content, vous voyez. Mais ce qui prouve bien que l'on pourrait nous-mêmes porter beaucoup de fruits. Des fruits d'humilité, des fruits de sainteté, des fruits de repentance. La Bible parle du fruit de la lumière, du fruit de la justice, du fruit des lèvres. Est-ce que la Bible parle des fruits des lèvres? Quand le Seigneur dit, mais offrez vos corps comme un sacrifice vivant, les lèvres, elles font partie de notre corps. La langue, elle fait partie de notre corps. La bouche, elle fait partie de notre corps. Donc ça représente les paroles. comme ce jeune qui est venu me voir il y a pas longtemps et qui voulait rentrer dans le ministère parce qu'il savait que j'avais toujours des stagiaires en formation, je vous l'avais raconté. Et il était content, il est venu avec sa femme, il voulait me voir, il est venu de loin en plus. Et puis moi, je lui ai posé plein de questions par rapport à son appel, par rapport à son témoignage. Et puis après, je lui ai posé deux, trois questions sur la façon dont il parlait. Et je lui ai dit, au niveau du vocabulaire, comment vous faites ? Alors, il y a eu un petit blanc. Vous connaissez ce texte dans les Colossiens où il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole grossière, etc. Ah, mais de temps en temps, ça m'arrive d'en lâcher un parce que moi, j'ai un caractère, vous savez, je viens de Corse ou de Marseille. Mais ce n'est pas le caractère, c'est pas la culture, c'est la désobéissance. Et monsieur, il s'autorisait à être vulgaire parce que sa culture faisait... Mais j'ai dit, mais il n'y a pas une Bible pour les Marseillais ou pour les Corses. Il y a une Bible pour tous les hommes de la terre. Mais voyez, quand on s'autorise à cette vulgarité, la Bible parle du fruit des lèvres. Et si vous êtes vulgaire, si vous de temps en temps vous lâchez des mots grossiers, ce n'est pas la culture, ce n'est pas parce que tonton il est corse ou parce qu'il est breton, c'est parce que vous désobéissez. Le fruit des lèvres. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord ? Vous êtes vraiment mes disciples si vous portez beaucoup de fruits. Et s'il y a ce problème, moi je crois que le Seigneur, il nous délivre. Vous croyez que le Seigneur, il délivre, qu'il guérit, qu'il libère. Mais c'est quoi la puissance de la parole ? C'est quoi la croix ? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit ? Vous ne croyez pas que toutes ces choses, elles sont incluses là-dedans ? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il a cette victoire, c'est pas possible. La puissance du calvaire, la puissance de la croix. Vous croyez que le Saint-Esprit, c'est une puissance qui nous délivre ? Oui, moi je le crois. Et le Seigneur, il est formel. On le relit pour terminer. Hein ? Jean chapitre 15, verset 8. On va relire le verset 7, parce qu'il y a cette... persévérance dans le souci de demeurer en Christ, parce que la solution, elle est là, je demeure en lui. Mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte, la délicatesse de Jésus, il savait qu'un jour après ou deux, il allait mourir au calvaire. En plus, il prend le temps de leur dire, mais si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Mais vous réalisez ? Et cela vous sera accordé. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors ne vous plaignez pas des autres. Oh ma femme, oh mon mari, il pourrait être mieux, il pourrait faire davantage, il pourrait être plus sympa, ou le pasteur, il pourrait être plus sympa, etc. Mes frères et sœurs, que t'importent les autres ? Toi, suis-moi, dit le Seigneur. T'as mieux si les gens autour de toi portent du fruit. T'as mieux si les gens à côté de toi sont spirituels. Mais mes frères et sœurs, quand on passera devant Dieu, ça ne sera pas une question de se comparer aux autres, que nous ayons eu la joie sur la terre de dire « Oui, je développerai des vertus qui feront que je serai un vrai disciple. » Faites des disciples et baptisez-les. Nous souvent baptisons les gens, je le regrette, hein, mais ce sont des chrétiens. De nom et pas des disciples accomplis. Alors que Dieu nous aide, il le fera. On peut demander son aide avant de partir ? Est-ce qu'on peut lui demander de l'aide ? Ben, si vous lui demandez de l'aide, il vous aidera. S'il ne vous aide pas, c'est qu'il y a un problème. C'est sûr. Mais mes frères et sœurs, si on lui demande de l'aide, si on cherche la vie de l'esprit, et si on reste à la croix, il nous bénira, mes frères et sœurs.